Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et société.
La conférence d'aujourd'hui est une invitation de l'Observatoire de la traduction autochtone, un projet lancé par le professeur Lemieux de l'Université Concordia, visant à mettre en lumière les différentes initiatives qui touchent de près ou de loin à la traduction, depuis et vers les langues autochtones. C'est un plaisir de recevoir aujourd'hui Félicia Mignali, écrivaine et traductrice d'origine roumaine. Son œuvre se place dans une longue tradition de la littérature migrante, de la génération des écrivains de l'exil. Ses écrits portent ainsi sur la tradition, l'exil et le déracinement. Si elle écrit et traduit en roumain, en français et en anglais, c'est bien parce que l'exil lui est obligé, vous l'avez dit dans une récente entrevue. C'est le besoin impératif d'évoluer, de se diversifier. Or, cela passe souvent par les langues. Je le cite encore. La création de sa maison d'édition Hashtag s'inscrit, entre autres, dans cette volonté de faire entendre, par le biais de la traduction notamment, les différentes voix qui composent la réalité multilingue au Canada. Leur collection d'essais propose de publier des textes d'idées au sujet contemporain, parfois ardent. Pensons aux traductions des livres ici présents, donc Brun de Kamal al-Sulaili, ou encore Vilaine femme, donc plusieurs témoignages de femmes écossaises. Ou encore Celui qui cherche à savoir, s'ouvrir à la spiritualité autochtone, de Blair Stonechild. Félicia Mignali est venue à Concordia le 17 janvier dernier pour une discussion avec la traductrice de son premier roman, Le pays du fromage, la professeure émérite Judith Weiss-Woodsworth. Cette fois-ci, elle vient plutôt pour discuter des enjeux sociaux et contemporains entourant le monde de l'édition d'œuvres traduites.
Bonjour, merci beaucoup, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de rencontrer les jeunes générations d'étudiants, de profs aussi. On a fait déjà une petite introduction, j'ai parlé de mes études. Je suis arrivée au Canada en 2000. En Roumanie, j'avais deux baccalauréats, mais en Roumanie, baccalauréat, ça veut dire 5 ans. Donc, parce que ça finit, c'est comme le premier cycle et le deuxième cycle. On finit le bac avec un mémoire, comme mémoire de maîtrise. Donc, j'avais un bac en études. En fait, je l'appelle études françaises pour vous donner comme un petit repère, mais en fait, chez nous, c'était philologie classique. Ça veut dire qu'on étudiait les grecs, latins, études des langues anciennes, le slavon. Donc, chez nous, c'était philologie. Donc, tout ce qui tient l'étude de la langue, littérature ancienne. Et ça prenait 5 ans pour être prof de roumain, donc de langue roumaine dans une école secondaire, je ne sais pas où, mais c'était ça, la tradition. Et deuxième bac que j'ai fait, qui était seulement 4 ans, c'était langue étrangère. J'ai choisi le chinois et le néerlandais. Chinois comme langue principale, le néerlandais comme langue secondaire. Donc en Roumanie, j'avais ce bagage étudiant quand même assez riche. Ça faisait 9 ans d'études à l'université, à part le lycée, à part les études. Donc, j'avais un plaisir. Je n'étais pas nécessairement très amoureuse des langues. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la grammaire ou les études linguistiques, mais toujours l'ouverture vers d'autres cultures, d'autres littératures, ça passe beaucoup par les langues. Quand j'étais étudiante, j'aimais beaucoup la littérature latine. Je lisais beaucoup les classiques et on étudiait le latin à l'époque. Ça faisait partie de philologie parce que toute ça part des Grecs et des Latins. Donc, on passait par là. Et au latin, je n'étais pas très bonne. Et la prof, qui était presque aussi jeune que moi, j'ai commencé les études plus tard, me disait, si tu veux vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'esprit latin, tu ne peux pas passer par la langue. Il faut apprendre le latin très bien d'abord parce que tout est dans le latin. Toute la littérature, la pensée, la philosophie, l'art, ça vient avec la langue. Et là, rester comme ma leçon. Quand j'ai voulu aller vers l'Orient, vers la Chine, j'étais fascinée un peu parce qu'après 89, vous devez comprendre que la Roumanie était un pays communiste. Donc, jusqu'en 89, on ne pouvait pas voyager, on n'avait pas accès au monde et à la littérature du monde. On était juste lié à la Russie, donc littérature russe qui est très bonne. L'Europe, mais avant, un peu avant l'arrivée des communistes, donc les années 50, donc on était quand même assez limité comme accès vraiment au monde contemporain. Après 89, il y avait une grande, grande ouverture et moi, c'était ma fascination, c'était la Chine, que j'associe pas avec, bon, la mauvaise marchandise ou la Chine, c'est quand même, c'est une grande culture, une grande civilisation parmi les plus anciennes, Les premières écoles de philosophie, ça date depuis 2500 avant notre ère. Donc, et là, j'avais la leçon que si tu veux comprendre la Chine, la culture chinoise ou cet esprit oriental, c'est, je le dis avec un peu de retenue. Après Saïd, on peut pas utiliser le terme oriental dans le sens de, donc avec un peu de retenue, l'Asie extrême. Donc, j'ai compris qu'il faut apprendre le chinois. Et j'ai passé 4 ans à apprendre les hiéroglyphes. Je n'ai pas excellé comme étudiante non plus, mais c'était la base. J'ai compris la philosophie, lire Confucius, Tao Te Ching, un chinois, un original. Là, c'est comme un texte, une page est remplie avec 12 hiéroglyphes, mais là, c'est tout en philosophie. Chaque signe a un message. Donc, c'est ça. J'avais fait ces études-là. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis allée vers le chinois et néerlandais. C'était juste une passion. Ce n'était pas une motivation pratique parce qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais quand je suis venue ici, quand même, mon français, mes études, mes connaissances, mes diplômes m'ont donné tout de suite accès à la maîtrise à l'Université de Montréal. Je me suis inscrite dans le département de littérature comparée. J'avais en tête d'étudier postcolonialisme, quelque chose qu'en Roumanie, je ne pouvais pas étudier, mais je voulais faire le postmodernisme, quelque chose qui m'avait attiré comme mouvement, comme Thomas Pynchon, c'était notre Bible à l'époque quand j'étais jeune à l'université de Bucarest. Mais à l'université, j'ai découvert donc le Canada, le Québec, le colonialisme, le conflit entre les deux communautés. Ça m'a poussé vers d'autres choses et c'est pour ça que j'ai découvert les études postcoloniales. C'était très en vogue à l'époque. Je ne sais pas maintenant si c'est aussi couru. Les cours de littérature postcoloniale, c'était le plus chargé. Il y avait le plus de monde. C'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce qu'en Europe, il y a cette tradition philologique. Toujours la littérature est associée avec la philosophie. La philosophie, c'est la science mère, on ne peut pas s'en passer. Ici, non, c'était social, historique, hybridisation avec toutes sortes d'arts, danse, musique, c'était très nouveau, c'était fascinant pour moi. Et ensuite, les études queer, féminisme, chez nous, on ne faisait pas ça. En fait, en Europe, je pense que c'est beaucoup plus fermé au niveau de ces courants de pensée, alors qu'ici, c'est beaucoup plus libre. Donc, je ne sais plus quelle est ta question, mais c'est ça, on parlait d'études, donc j'ai fait la maîtrise en littérature comparée. Et j'ai fini avec un mémoire sur les identités hybrides. C'était quelque chose, je me suis reconnue dans ce type d'approche, les identités hybrides. Il y avait, j'ai trouvé quelque chose, une métaphore que j'ai adorée, c'est comme migrante, on se sentait un peu comme un arbre qui pousse avec les racines dans l'air. Donc, on avait toujours le besoin de s'ancrer quelque part, de comprendre notre identité, on est où et pour combien de temps. Svetlana Todorov disait qu'un migrant est celui qui a perdu un pays sans nécessairement trouver un autre. On vit toujours dans cet interrègne entre deux pays. On est comme une bigamie. Je vais m'écrire un livre qui s'appelle La Bigame, qui en fait, c'est la, ça parle de la destruction d'un mariage et le début d'un autre. Mais c'est comme un parabole ou comme métaphore de la vie d'un migrant parce que on vit toujours entre l'ancien pays qui est l'ancien mariage, qui ne nous quitte jamais en fait, et le nouveau pays qui est un nouveau mariage. On essaie de s'adapter, de s'inventer. Les études à l'Université de Montréal m'ont beaucoup aidé à me placer dans la littérature et à formuler une nouvelle vision, référence pour certaines auteurs, autrices, pour certains livres, pour certaines thématiques. Je suis beaucoup plus intéressée à la politique, à l'histoire. Par après, j'ai fait une maîtrise en histoire. C'est comme ça que j'ai découvert, en fait, les questions autochtones à l'Université de Montréal. J'ai fait une maîtrise. J'ai pris beaucoup de cours sur l'histoire du Canada et j'étais un peu désenchantée parce que le Canada, le mythe du beau Canada pacifique et tout ça, donc ça se démolit un petit peu si tu entres en profondeur, les communautés autochtones, puis la politique extérieure, puis la politique raciste qui, jusqu'en 1960, les Asiatiques, les communautés asiatiques étaient interdites d'accès ici. Donc, c'était terrible. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut en parler, il faut apprendre, il faut. Mais je veux dire, ce réveil à ces thématiques m'a sorti un peu de cette bulle littéraire, callophilie. Tout est beau, ça a sa place, mais comme individu, ça m'a beaucoup aidé à me développer. Et en Roumanie aussi, j'ai travaillé, même si j'ai fait des études pour être prof, j'ai travaillé comme journaliste. Et le côté information, recherche, langage très simple, circulation, grande circulation d'idées, les enjeux, ça me préoccupe beaucoup. Je pense qu'une manière de comprendre le pays quand tu déménages, c'est ça passe par les bulletins de nouvelles, par les journaux. À l'époque, j'étais abonnée, Presse, Le Devoir, je les achetais. J'étais abonnée, c'était en 2000, on n'était pas tellement branchés. Donc, ça venait chaque jour et chaque jour, chaque matin, 1 heure de temps, je passais en lisant les journaux, puis les bulletins de nouvelles, anglais, français aussi. Et pour comprendre où on est, quels sont les enjeux, tu renonces à tout un savoir qui t'a défini, connaissances historiques, connaissances sociales, pour te réinventer. Et ça passe par les nouvelles, par l'information, c'est vital. Donc, pour la première partie de la présentation, voilà, si vous avez des questions, donc je pourrais continuer.
Une question assez générale. D'où vient le projet des éditions Hashtag? C'est quoi les
Ouais.
motivations? Pouvez-vous nous en parler?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai été longtemps écrivaine. En 2002, j'ai publié un livre avec un éditeur XYZ qui était beaucoup connu à l'époque. Je ne sais pas maintenant sa réputation, mais c'était littérature québécoise. C'était spécialisé vraiment les auteurs québécois. Et moi, j'étais un peu surprise d'être choisie. Le pays du fromage, c'est un pays que j'avais publié en roumain qui parle de la Roumanie. Et mon éditeur de l'époque, André Vanasse, l'avait comparé avec Une saison dans la vie d'Emmanuel de Marie-Claire Blais. J'étais surprise, choquée, j'avais peur. Parce que quand tu fais ça sur le livre d'un débutant, puis c'est comme ni vu ni connu, comparer ça avec un classique, c'était assez risqué. Mais il disait, je sais ce que j'ai dit. Pourquoi ton livre qui parle de la Roumanie, de la campagne, du destin d'enfant, d'une femme qui. Quelle est la ressemblance avec cet univers de la campagne québécoise des années 60? Donc, je suis entrée par la porte de la littérature québécoise. Donc, j'étais comme longtemps, je n'ai pas entendu parler de moi comme autrice migrante, en littérature migrante. Moi, je faisais partie de la littérature québécoise. Et comme toute littérature, il y a toutes sortes de choses qui entrent dans une littérature. Il n'y a pas une ligne directrice, on n'écrit pas juste sur cette thématique. On est, tant mieux, on fait la place à une grande diversité de sujets, de manières d'aborder. Il n'y avait pas beaucoup d'auteurs comme moi à l'époque. Il y avait, mais pas beaucoup. En 2000, ça commençait un petit peu, la tendance à faire place un peu à ceux qui embrassent le français comme langue d'écriture, parce que ce que j'ai fait, j'ai renoncé au roumain. En Roumanie, j'avais publié 3 livres, mais en déménageant ici, c'est sûr qu'il faut faire un choix. Si tu veux publier ici, moi, je voulais écrire, je voulais continuer ma carrière d'autrice. Il faut faire le saut vers une autre langue. J'ai commencé par la traduction. En fait, Le Pays du fromage est une traduction du roumain. Des auteurs, des autrices comme ça, qui viennent d'ailleurs, j'avais 33 ans, c'est pas un âge où on peut changer complètement. Le bagage qu'on traîne après nous est un peu plus lourd, c'est difficile à te débarrasser. L'accent a une moindre représentativité parce que tu as un accent, les gens, c'est différent, c'est un peu différent. Je ne dis pas que c'est difficile, c'est différent. Donc, en 2000, des cas comme moi qui commencent à écrire dans une autre langue à un âge quand même assez avancé, il n'y avait pas beaucoup. Je fais une parenthèse maintenant, je suis en train de publier une autrice, Meysoun Mazari, qui est comédienne, qui est d'origine arménienne, iranienne, anglaise, britannique, mais elle est née ici, des parents, des 4 parents différents. Et elle aussi a un peu de problème à s'identifier un petit peu, même si son accent, donc elle est québécoise pure laine. Mais bon, sa peau, ses cheveux, son nom, c'est comme cette question d'identification, c'est difficile pour tout le monde. Je pense que tout le monde, à un moment donné, il y a un problème à nous identifier, à nous définir. Pour moi, c'était assez ardu, je dois l'admettre. Au début, c'est plus facile, tu sais pas exactement dans quoi tu embarques, mais ensuite, ça, au fur et à mesure que tu avances, que tu connais le milieu, ça devient un peu plus théorique, disons. Tu as besoin d'un appareil pour te définir, pour comprendre. Au moins, c'est mon cas. Je suis journaliste, j'ai toujours le besoin d'expliquer, de comprendre pour pouvoir expliquer aux autres et vivre avec ces connaissances. Donc, cette carrière de quoi, 20 ans de littérature, à chaque livre, il y avait un autre défi. J'abordais un autre thème, un autre sujet. Et avec chaque livre, j'essayais de construire cette identité. Félicia Mihaly, qui a commencé avec un livre de traduction, mais qu'est-ce que je fais? En anglais, c'est learning curve, donc cette courbe ascendante. On est toujours en courbe d'apprentissage. Comment je construis cette montagne de connaissances? J'ai publié longtemps en français, j'ai écrit jusqu'en 2013, j'ai publié 6 livres avec XYZ. Ensuite, XYZ, il y a un changement de garde. XYZ a été acquisitionné par Tubiz. On dirait que chaque fois ça arrive, les changements, c'est pas facile pour tout le monde. Mais parce que j'ai fait un baccalauréat en études anglaises, j'ai commencé aussi à m'amuser à faire des choses en anglais, juste comme des travaux de séminaire. Et à la fin, ça a donné un petit bouquin que j'ai présenté à une maison d'édition, Linda Lee Publishing, qui était aussi une jeune maison d'édition, qui a beaucoup aimé. Le livre s'appelle en anglais The Darling of Kandahar, La bien-aimée de Kandahar. Il s'inspire d'une histoire que j'ai lue dans le journal, dans le magazine Maclean's, en fait réel. Et le livre, quand même, c'était bien reçu dans le monde anglophone. Canada Reads, qui est la célèbre émission de radio, l'avait placé dans le top des 10 meilleurs livres en 2013 au Québec. Puis je l'ai traduit aussi en français. Puis ça, étonnamment, parce que les traductions, on dirait qu'au Québec, ça marche, les traductions, ça ne marche pas aussi bien que la littérature. Mais ce livre a très bien, a plu beaucoup. C'était un peu différent. Donc, ensuite, j'ai écrit en anglais 3 titres, en fait 2. Et donc, en 2017, j'avais comme un bagage de 6 livres en français, 3 en anglais. Et puis, j'étais à Iqaluit, j'ai enseigné. J'ai pris une année sabbatique de mon école d'ici. J'ai enseigné le français à Iqaluit dans une école, petite école francophone. Et là, j'ai eu le temps comme être dans le Grand Nord et regarder un peu comme le triangle de mon identité. D'un côté, la Roumanie, de l'autre, le Québec. Tout mon parcours, j'ai eu le temps. Ça arrivait souvent, les blizzards. Donc, on restait bloqué une semaine à la maison. On ne pouvait pas sortir parce que c'était moins 50. Alors, on avait le temps vraiment de refaire notre vie au complet. Et là, j'ai pris une année comme de réflexion un petit peu. J'avais quand même 20 ans presque de vie au Canada. J'étais prof d'histoire aussi. Je connais le système, les deux, les avantages, les désavantages, les conflits, les exagérations, les drames du passé. Je connais ça. Ça s'ajoute aussi nos drames. On est comme la troisième solitude parce que les migrants, ça se place entre anglophones, francophones. Nous, on est où? On est comme quelque part entre. On passe dans les deux communautés, mais on reste comme la troisième solitude, en fait. Et puis, je lisais beaucoup aussi, plus que quand je suis à Montréal. Et là, je me suis rendu compte que, je ne sais pas si vous avez le film récemment, The American Fiction, l'auteur qui dit, ben, nos histoires, c'est à nous de les écrire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est génial le film. Et je me suis rendu compte que, bon, c'est sûr, il y a beaucoup de livres, de bons livres, beaucoup de maisons d'édition en publient, beaucoup, mais les histoires comme la mienne ou sont assez rares, je trouve. Et oui, on publie par-ci, par-là dans les maisons d'édition, mais je me suis dit peut-être que c'est le temps de mettre sous le même parapluie éditorial le type d'identité hybride ou les types de préoccupations, les types d'histoires, les types de récits que j'aime, qui me définissent, que je veux découvrir et qui peut-être parlent un peu plus des visages cachés du Canada. Il y a beaucoup de communautés marginales et je ne parle pas juste des communautés migrantes parce qu'en ouvrant cette maison d'édition, j'ai pris conscience du fait qu'il y a beaucoup de communautés marginales dans les communautés marginales. Par exemple, la communauté LGBTQ. Le premier bon manuscrit qui m'est venu, ça venait de la communauté LGBTQ, un auteur trans. L'LGBTQ, la communauté, oui, on est familier avec les livres, mais on dirait que cette communauté queer et trans sont encore difficile à publier, à promouvoir. Et moi, je me suis dit, on a discuté, mais nous, on veut faire autre chose. Est-ce qu'on publie ça? Puis la jeune cofondatrice qui était avec moi me disait, mais si on refuse un bon titre juste parce que c'est pas comme nous, alors ça cloche. C'est une minorité, c'est pas ethnique, mais c'est encore une minorité. Puis c'est un visage caché qu'on connaît moins. Donc, si on se donne comme mot d'ordre les visages cachés de la société, ça en est un. Donc, parlons-en. Et c'est comme ça qu'on a une bonne collection de poésie. LGBTQ, trans, queer, qui n'étaient pas vraiment. Tout d'abord, la poésie, ça ne se vend pas bien et c'est beaucoup d'argent. Et c'est comme ça, donc, en ouvrant une maison qui avait pour tâche de chercher un peu les auteurs qui, peut-être, les communautés ethniques, les minorités audibles aussi, parce que les minorités visibles, on parle beaucoup depuis longtemps, le Canada, le Québec ont de bonnes politiques pour encourager, pour promouvoir ces communautés visibles qui sont quand même assez discriminées. On le sait, l'histoire du Canada, c'était. Mais on parle moins, mais on connaît moins. Et c'est juste récemment qu'on parle des minorités audibles, des gens qui ont un accent, qui sont tout aussi discriminés, peut-être même plus que les minorités visibles, parce qu'il n'y a pas des politiques à l'appui des gens qui ont un accent. Il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de choses qui sont absolument interdites aux communautés audibles. Et ce n'est que depuis quelques années que j'ai vu que communauté audible entre dans la ligne des communautés, bon, à cocher si tu te sens appartenant, minorité visible, autochtone, audible ou linguistique. Donc, je pense que c'est le temps de parler de ça. Parce que oui, l'accent, ça pose des problèmes. Pour moi, pour eux, ça a été longtemps une grande bataille. Parce qu'il y a beaucoup de choses à laquelle je rêvais même pas. Parce que je sais que l'accent m'interdit l'accès à ces choses-là. Et donc, en cherchant les minorités linguistiques parmi les créateurs, des gens qui, donc, la langue maternelle est différente, mais qui, en création, ça t'empêche pas d'écrire, d'utiliser la langue avec tes moyens, avec ta façon, tu as le droit d'utiliser la langue du pays à ta manière. Et même si tu fais des erreurs, ça entre dans ta manière de voir le monde. Et parfois, les fautes que tu fais, oui, ça devrait être un peu plus acceptable parce que c'est notre manière. Dionne Brandt, la poétesse, disait, au Canada, on ne parle pas anglais, English, avec majuscule, on parle Englishes, avec minuscule. Donc, on parle le français, un bon français, mais à notre manière. Et le français qu'on parle, ça devait être permis de porter un peu les traces de notre bagage linguistique. Un chinois, un indien de l'Inde, un roumain, un russe. On parle notre français à nous et ça ne devait pas être aussi honteux, notre accent, puis notre manière de faire la grammaire. C'est sûr, à un moment donné, il faut unifier. Oui, on ne peut pas aller dans tous les sens, mais je veux dire, ça ne doit pas être si honteux de charger le français avec notre bagage à nous. Et en littérature, peut-être, ça pourrait être encore plus beau d'accepter cette hybridisation qui est complètement interdite. Un manuscrit que tu donnes à un éditeur, il est massacré sur le critère, c'est pas ta langue, tu sais pas, écoute-nous. Et j'ai travaillé mes premiers manuscrits, je les faisais avec une amie de France, elle était ma collègue à l'Université de Montréal, puis elle a toujours m'a aidé un peu à faire la révision. Et quand je lisais les manuscrits corrigés par mon éditeur, on disait, à un moment donné, ils doivent te donner une identité, te respecter ton identité à toi. Jusqu'à quand ils vont corriger de manière aussi infantile tes manuscrits? Il faut qu'ils te donnent un peu plus de liberté de faire ton français, ta langue, ton livre à toi. Ce n'est pas encore arrivé. Moi, comme éditrice, je comprends un peu plus mon éditeur parce que ce n'est pas évident. Parce que ce livre est lu par des chroniqueurs, des voix ou autres, qui, bon, s'ils trouvent des fautes, ils ne savent pas si c'est une erreur, si c'est voulu ou si ça nous a échappé. Donc, tu risques beaucoup de te faire massacrer pour un mauvais français. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux que je n'ai vraiment pas envisagés au moment où j'ai fait hashtag. Mais je voulais un autre genre d'histoire, d'autres voix, d'autres sujets, d'autres réalités. On publiait peu au début, on publiait 7 par année. Mais en fait, on est resté avec 8 titres par année, mais 2 recueils de poésie, 2 essais, 2 romans et 2 traductions. Et au début, on allait un peu plus vers les minorités ethniques, on les cherchait, on ne les a pas trouvées. Étonnamment, les auteurs ethniques ne veulent pas nécessairement publier avec un éditeur ethnique, pas du tout. Et on ne s'est pas acharné. J'ai dit, ce n'est pas ça notre but. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'un auteur ethnique détient l'exclusivité. Non, il faut chercher les bons livres, mais qui présentent un autre type de société. d'autres enjeux qui ne sont pas discutés, qui sont peu discutés ou abordés d'une certaine manière. On va être plus sincère, plus ouverte, on va donner à l'auteur plus d'autorité, plus d'autonomie. On va encourager beaucoup les primo-romanciers parce que parfois les auteurs qui ont déjà une carrière, ils s'attendent à ce que tu acceptes le manuscrit, puis le public comme tel parce qu'il est grand d'auteur, puis tu connais moins, puis c'est comme... Non, les primo-romanciers sont une patte. Ils ont des idées, ils viennent d'une société comme... Ils n'ont pas cette charge que nous avons. J'ai hâte de les lire. Je travaille avec les jeunes et j'aime beaucoup. J'ai pas cette idée que bon, les jeunes ne sont pas aussi éduqués. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas cette culture classique. On ne met pas tellement l'accent comme nous sur les Grecs et les Latins. Mais ils savent autre chose. Ils sont formés à une autre école. Et cette société, c'est à eux. Écoutons-les. Ils ont des choses à dire à leur manière. Et puis, s'ils n'ont pas lu Platon, Socrate, Aristote, quoi, ils ont lu d'autres choses, ils font autre chose, ils sont bons dans autre chose. Et ça m'intéresse beaucoup les jeunes auteurs-autrices qui parlent des choses inattendues. J'ai une autrice de 19 ans, Sandrine Sévigny, qui a écrit son livre à 19 ans. Et c'était l'histoire d'un collègue qui était un trouble fête. Qui en fait était un enfant grandi dans une famille d'accueil et sa vie était terrible. Donc, c'était même pour moi, c'était difficile à accompagner. Donc, j'ai dû quand même l'accompagner pour qu'est-ce qu'il faut garder de tout ça parce qu'on ne peut pas tout dire, comment on le dit pour ne pas blesser, pour ne pas condamner. Hein. Les familles d'accueil font leur travail à leur manière. Parfois, ce n'est pas évident. Donc, c'est ce type d'histoire qu'on cherchait dès le début avec Hashtag. Et une autre chose qu'on a découverte, c'est le fait que, bon, littérature originale, oui, mais les traductions. Parce qu'on traduit des livres qui se ressemblent beaucoup. C'est la même chose qu'avec la littérature originale. On traduit des biographies des gens célèbres, des essais sur les thèmes écologiques. En tout cas, oui, il y a d'autres choses qui sont intéressantes, mais les choses qui m'intéressent, moi, à lire, je les lisais plutôt du côté anglophone. Même quand j'étais étudiante en histoire. Par exemple, en histoire, tout le corpus dont tu as besoin, c'est en anglais, très peu en français, même sur des sujets qui t'intéressent pour étudier l'histoire du Québec. C'est sûr, le Canada, c'est plus grand, c'est comme la langue, l'anglais, ça ouvre. Tu peux aller chercher des essais qui s'écrivent aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Donc, c'est sûr, c'est beaucoup plus grand comme univers. Mais ce type de livre, par exemple, ça, c'est très difficile de trouver. Ah, par exemple, traduction en français. Ça parle de, bon, la race brune. Nous, on parle, notre code culturel partage la question raciale entre blanc et noir. Mais qu'est-ce qui arrive avec ceux qui ont la peau brune? Ils sont où dans cette équation? Donc, les Arabes, les Indiens, les Asiatiques, dont cette race interrègne, comme les migrantes, on les connaît moins. On associe, par exemple, la peau brune avec terrorisme, islamisme, femmes de ménage, philippinaises, tout ça. Donc, c'est toute une réalité qu'on connaît moins. Et j'ai trouvé ça, je l'ai lu en anglais en 2017, quand Kamal l'avait publié. Je trouvais ça, c'est une lecture obligatoire, je trouve. C'est le genre de lecture que tout le monde devait faire, surtout dans les pays où il y a une forte communauté brune qu'on ne connaît pas, qu'on blâme en vrac comme l'islamisme, fondamental terrorisme, etc. Alors que la réalité est beaucoup plus vaste. Comment on est arrivé là? Il a fait un voyage à travers le monde pour chercher ses communautés, et puis en France, Angleterre, le Canada, les États-Unis, voir quelle est la réalité de ces communautés. Donc, c'est pour ça les traductions, peut-être qu'en traduction, en fait, Hashtags créent beaucoup plus sa ligne qu'en littérature originale. On est encore à la recherche. Je pense que notre force est devenue la traduction et la poésie, beaucoup plus que les romans ou l'essai de la collection Notification. Justement parce qu'on a trouvé les perles rares qui se traduisent très peu, qui nécessitent beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de pertes financières. La poésie, un manuscrit pour le publier, ça coûte 5 000 dollars. Et tu vends peut-être 200 exemplaires, même. Parce que c'est une poésie écrite par des jeunes, surtout, et qui parle des enjeux. C'est une poésie très contemporaine, très sociale, très quotidienne. et qui parle des choses qui obsèdent, qui préoccupent le corps, la maladie, la vie de banlieue, le malheur, quand tout le monde devait être heureuse au Canada. Non, c'est-à-dire, on est tellement bien ici, pourquoi on est si malheureux? Notre malheur se construit ailleurs. Donc, une femme qui est grosse, c'est ça son malheur. La nourriture, la relation avec la nourriture, le corps, ce que les autres attendent de nous, puis nous, on ne peut pas livrer. Et on est malheureux. La maladie mentale, le stress, l'autisme, la dyslexie. Donc, moi, j'assiste comme enseignante dans mes classes, le nombre d'enfants avec toutes sortes de codes, de comportements, déficit d'attention, etc., ça a augmenté, a doublé presque. Cause de, je ne sais pas, la nourriture, l'enfermement, les écrans et tout ça. Donc, des élèves qui ne peuvent plus lire, qui ne peuvent pas se concentrer. Et ça, ce sont des drames quotidiens. On est très peu conscient de ça et de ce que ça va générer plus tard. Donc, voilà comment je suis partie pour faire une maison d'édition pour les communautés ethniques, mais en fait, j'ai découvert d'autres choses.
Je trouvais intéressant le fait qu'il y a une écriture, il y a une langue migrante qui doit paraître, qui n'a pas à se cacher, mais en même temps, il faut s'ajuster parce que la possibilité, c'est aussi que la critique porte sur le
Oui,
langage plutôt que sur
exactement,
les idées.
exactement.
Est-ce que dans la traduction, ce genre de langage-là, est-ce qu'il passe? Est-ce que vous êtes capable de le publier, ce peut-être un langage, un genre de français marginal?
En traduction, j'essaie de ne pas faire cette... Non. Je pense plutôt de la création de littérature originale, donc comme auteur-autrice. Si un auteur, je ne sais pas, il est né en Chine et il déménage ici, puis il veut écrire un livre en français, jusqu'où je vais avec le massacre dans son texte? Combien je lui donne de liberté de faire son français à lui? Mais en traduction, je pense qu'on se doit quand même cette fidélité linguistique. Le texte est correct, écrit en anglais, toi tu le fais aussi correct en français. Maintenant, je traduis de la fiction. Mais honnêtement, j'aime beaucoup traduire des essais. Le langage journalistique, très simple, informatif, je suis très bonne. Je considère que je suis très bonne avec ça parce que je réussis à donner cette clarté du langage, les idées aussi. C'est ma force, les essais, à traduire. Et là, je ne me pose pas la question de, ça veut dire que je fais une correction linguistique très poussée. Il y a deux même. Je fais une lecture parallèle, révision linguistique, correction des preuves, parce que ça doit être correct. Il y a beaucoup de gens qui sont en jeu. Il y a la maison d'édition qui m'a confié. C'est en question de confiance. Tu vas gérer, t'es un garant que c'est un travail bien fait. Et puis c'est l'auteur, ben, c'est les choses, une traduction mal faite, c'est une catastrophe. Peut-être il y a des choses que, bon, on fait des erreurs sans le vouloir, sans le savoir, mais ça doit être très bien fait. C'est vrai parce que on risque pas de d'attirer sur l'auteur, sur la maison d'édition, le blâme d'un travail mal fait.
Je pense à certains auteurs autochtones qui écrivent en anglais,
Oui.
mais qui autochtonisent la langue anglaise. Fait que dans ce cas-là, comme il y a un jeu sur la langue anglaise elle-même, est-ce que là, la traduction en français laisserait plus de place, justement, ou est-ce que vous choisiriez plutôt de rectifier dans la traduction?
Ça, c'est un travail. Je regrette de ne pas avoir pris le. J'ai oublié l'essai de Blair Stonechild, qui était en anglais, c'était The Knowledge Seeker. En français, c'est devenu celui qui cherche à savoir. C'est Mirella Vaudéan qui l'a traduit, qui a été prof dans ce département, qui a un doctorat en France, un doctorat ici. C'est elle qui l'a traduit. Puis elle a beaucoup travaillé parce que cet essai, c'est moitié biographique, ça veut dire Blair a grandi dans une école résidentielle, il a connu la réalité, il parle, c'est un peu biographique. Maintenant, il enseigne à l'université de Regina, a enseigné maintenant, il est à la retraite. Mais aussi, il parle des rituels. Et pour lui aussi, c'est un défi parce qu'il est allé chercher ses connaissances dans les communautés, donc la tradition orale. Donc, il a dû recueillir, comment dire, toutes ces traditions. Puis, il a dû consulter les anciens de sa tribu pour voir comment codifier dans un langage colonisateur ces connaissances qui sont tellement comme c'est l'oralité. Donc pour lui, c'était un grand défi de mettre en mots ces rituels. Pour Mirella, c'était un autre défi de mettre en français quelque chose qui était déjà passé par un travail d'accommodement, si vous voulez. Et alors, elle a beaucoup, beaucoup travaillé avec l'auteur à chaque fois qu'il y avait un problème qui posait les termes, la description des rituels. Il parlait avec Blair, qui était une grande, grande ouverture, puis une disponibilité. Il était aussi à la retraite, donc il avait le temps. Donc, on fait très attention. Moi, par exemple, j'ai traduit un roman, Possibly Ruby, l'autrice métisse, Lisa Bird Wilson, qui vit à Saskatchewan. Et la même chose, même si son livre et les auteurs, les jeunes auteurs, autrices ne sont plus dans ce savoir ancestral. Donc, c'est un langage comme le nôtre. Ils sont anglicisés. Ce sont des gens qui ne parlent même pas leur langue. Donc, ils parlent que l'anglais. Donc, leur anglais, c'est parfait. J'ai pas à craindre qu'il y ait une certaine dénaturation dans leur anglais. Mais quand même, quand il y avait une certaine, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de la culture autochtone à laquelle j'ai pas accès, je posais la question. Elle me dit non, c'est pas ça, non, c'est pas si compliqué que ça. Donc, on a tendance on a tellement peur de faire des erreurs que parfois, chez nous, on dit on souffle même dans le yogourt. Donc, quand tu t'es brûlé avec le café, tu souffles même dans le yogourt. Donc, moi, je souffle toujours dans le yogourt. Mais je pense que oui, ce type de littérature, ça pose un problème. Quand ça parle du savoir ancestral, quand c'est juste un livre de fiction, oui, on vérifie avec l'auteur si peut-être il y a le sens qu'on saisit pas, mais pour la plupart, comme je vous dis, c'est qu'on charge de quelque chose qui n'est pas là. Maintenant, par exemple, je traduis un autre livre qui s'appelle en anglais The Berry Pickers, qui en français, normalement, c'était les cueilleurs de baies sauvages. Ça marchait. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec Amanda Peters, qui est une autrice Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, sur certaines choses aussi qui posaient, parce que c'est l'histoire d'une famille Mi'kmaq qui s'en va dans le Maine pour l'été pour cueillir les baies, puis leur petite fille, elle est enlevée en fait pendant cet été 1960. Puis sa famille vraiment est déchirée, son frère Joe qu'il avait perdu, qui était avec lui, mais et il y avait des petites choses, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que la moitié du livre, c'est l'histoire de cette fille qui devient Norma dans une famille aisée de Boston qui, eux, l'avaient enlevée du bord de la route. Mais le titre, c'était vraiment le problème. Et là, j'ai parlé avec Amanda, avec son agente aussi, parce qu'on passe par beaucoup d'intermédiaires pour trouver le meilleur titre, parce que les cueilleurs de baies, je trouvais tellement bancal. Donc, finalement, on a trouvé un beau titre, j'espère. Mais Amanda, il était d'accord avec ça. Oui, une longue réponse pour dire oui, qu'on fait très attention.
C'est quoi ce titre, si tu peux me permettre?
On a choisi la sœur perdue. On a proposé Ruthie et Joe, Ruthie, Norma. Donc, il n'y avait personne qui collait. J'ai fait une longue liste de titres possibles. Et puis, j'ai dit parce que ça tourne autour de la sœur qui est disparue, où on ne peut pas dire ni enlevée, ni disparue, ni. Finalement, on l'a perdu, on l'a égaré, donc on a choisi, ça va être la sœur perdue.
Sur les traducteurs, traductrices, on a compris que vous traduisez beaucoup
Oui.
dans vos éditions hashtag. Est-ce que ça arrive que les essais, je pose la question aussi pour les étudiants qui sont en production des sciences humaines et sociales, si vous embauchez des traducteurs, des traductrices, qu'est-ce que vous allez chercher chez eux comme formation, comme savoir? C'est quoi vos coups de cœur, ça?
Ouais. Mais ça va aller par échantillon de travail, parce que parfois, tu as un traducteur qui a beaucoup d'expérience en quelque chose, mais peut-être c'est pas nécessairement le style que j'aime. Il n'y a pas assez de clarté, de transparence. Les traducteurs, après une certaine expérience, ils ont tendance à beaucoup s'investir dans la création. Ça devient la création pour eux. On perd un peu la fidélité du texte. Ça veut dire, ça se crée la tradition de bons traducteurs. On leur fait confiance. On dit, OK, s'il a fait ça, c'est parce que bon, elle a la bonne capacité là. Mais parfois, les nouveaux peuvent avoir comme meilleure approche parce qu'ils restent plus fidèles du texte. Ils cherchent plus. C'est la peur du débutant. Tu veux pas te tromper. Alors quelqu'un qui est plus expérimenté, je dis pas qu'on fait, oui, on fait bien les choses. C'est sûr, avec l'âge, quand tu as 20 livres traduits, c'est sûr que tu as les moyens. Et aussi, tu as le privilège de pouvoir choisir ton titre. C'est très important de pouvoir choisir le titre que tu traduis, quelque chose que tu aimes, qui ne soit pas imposé. Parce que si tu aimes les essais journalistiques comme moi, et si tu me donnes un texte plein de métaphores, je vais le refuser. Mais si ça paye bien, et si c'est, alors je vais dire, OK, je vais comme travailler 3 mois de plus, mais je l'accepte. Mais c'est toujours bien de accepter la traduction d'un livre qui te parle personnellement, comme style, comme sujet, proche de ton identité, proche de tes connaissances. Par exemple, j'ai traduit un livre de David Demchuk, qui lui, il est ukrainien d'origine, les parents étaient ukrainiens, mais il est né ici. Il a écrit un livre qui s'appelle en anglais The Bone Mother, qui en fait en russe était Baba Yaga. Je ne sais pas si vous connaissez les mythes. Donc cette Baba Yaga, lui, il a fait The Bone Mother. Moi, j'ai fait, parce qu'une des nouvelles, c'était l'usine de porcelaine Grazine. Et moi, j'ai choisi le titre de cette nouvelle parce que ça tourne autour de cette... C'est un roman noir, histoire un peu horreur, qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. Et c'est un village où il y a une famille de riches, puis il y a une usine qui s'appelle Grazine, c'est une usine de porcelaine. Mais c'est un mode sinistre, et c'est une manière de réécrire les anciens mythes slaves de l'époque, de cet espace. Mais moi, j'ai eu le privilège. Je suis née en Roumanie et je connais très bien cette mythologie et je connais même les choses que David ne pouvait pas connaître parce qu'il n'a jamais vécu là-bas. Donc, je pense que le fait que je connais cette réalité, ça a donné l'occasion de faire un meilleur livre, de corriger le tir là où c'était complètement erroné. David, il avait écrit de la tradition familiale, alors que moi, j'ai dit, ça, c'est impossible que ça se passe comme ça. Le simple fait de dire que il mangeait de la soupe, ça n'existe pas la soupe, ça existe le borscht. Et j'ai dit, c'est comme la soupe, c'est autre chose, c'est une soupe douce, alors que dans cette partie, on mange des soupes aigres où on met beaucoup de légumes, parce que c'est la soupe des pauvres. Tu mets tout ce que tu as là-bas, et puis tu mets un peu de borscht, un peu de vinaigre, pour que ce soit un peu surette. Donc, j'ai modifié avec son accord, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est pour ça que j'ai choisi le titre, parce que je sens que je peux faire. Normalement, une traduction, ça devrait être meilleur que l'original. Est-ce qu'il y a une deuxième réécriture? Parce que tu as l'occasion de venir avec ta charge de connaissances, de créativité, pour faire un meilleur livre. Je pense que mes livres en traduction, faits par moi, sont meilleurs que l'original. Parce que j'ai vu les défauts en prenant comme phrase par phrase. Avec un regard extérieur, j'ai vu, my God, ça m'a échappé, ça. Ça aurait pu faire mieux. Pourquoi mon éditeur n'a pas vu ça? Donc, je pense que la traduction, l'idéal, c'est que la traduction soit meilleure que l'original. Mais ça implique vraiment, les traducteurs doivent être quelque chose. Ça veut dire des connaissances, un bon traducteur qui a un bagage politique, historique, culturel. Des lectures, ça aide. Ça, c'est de l'or. On n'a pas beaucoup cette chance. On essaie. C'est pour ça, moi, dans les CV que je reçois, je regarde beaucoup leurs études, expériences, si possible. Quel type, s'ils ont traduit, quel type de livre. Les prix, ça, je ne regarde pas ça. Les prix, les distinctions, c'est tellement une poterie, tellement commandité, les prix. Mais je regarde le bagage. Du traducteur, son background, les études. Ça m'intéresse beaucoup de voir s'il a un baccalauréat, je ne sais pas, histoire ou sociologie, anthropologie. Je dis comme ça, waouh, j'ai dit, bon, je peux lui donner ça. Il va comprendre les enjeux. S'il a un bac en études féministes ou je ne sais pas, une maîtrise sur la situation des femmes, waouh, c'est sûr qu'il va comprendre les enjeux. Ce n'est pas juste une question de langue, vraiment pas. C'est du contenu. Tu dois savoir de quoi ça parle.
Ça arrive que vous choisissiez des traducteurs ou des traductrices qui ont étudié la traduction?
C'est
Parce que...
l'idéal, avoir un bac en quelque chose d'autre puis en traduction. Ça n'arrive pas souvent. Au moins, comme dans l'édition, quand j'embauche un adjointe à l'édition, j'aime beaucoup quand l'adjointe a passé par des cours d'édition ou... S'ils ont une certaine expérience dans une maison d'édition, parce que je ne repars pas de zéro. C'est sûr que quelqu'un qui a fait 3 ans en étudiant la manière de traduire, comment tu trouves, quel est le rapport entre à quoi on renonce, qu'est-ce qu'on ajoute, où on fait la balance entre, parce qu'il y a toujours un jeu entre renoncement et ajout. Tu ne peux pas garder à 100% ce que tu as, mais ça entre toutes tes compétences pour savoir jusqu'où tu vas avec les ajouts, jusqu'où tu fais de la création avec ce texte. Et ça aussi, on dit que les traducteurs sont des écrivains ratés ou échoués, ou je ne sais pas. Donc, oui, une bonne dose de création, c'est apprécier quelqu'un qui a la facilité du mot, qui a l'humour aussi. Moi, par exemple, dans mes livres, je pense qu'une certaine touche de légèreté, de savoir trouver le bon terme qui passe, c'est une grande science, savoir traduire, une grande, grande science. Et ça vient avec beaucoup de travail. Ça ne peut pas venir d'un coup. C'est sûr, il y a le sparkle, il y a l'étincelle. Tu vois tout de suite, je donne des tests comme 3 pages. Si j'ai un livre à traduire, si je fais appel pour un essai, je donne un échantillon, 2 pages, pas beaucoup, mais quand même. J'ai traduit la poésie qui est très difficile à traduire. Moi, je n'oserais jamais faire ça. J'ai traduit Carmine Starnino, qui est un grand poète anglophone d'origine italienne, mais lui, il est né ici, et qui avait écrit un livre que j'ai beaucoup aimé, la poésie, sa poésie en anglais. Puis, je me suis dit, malgré la folie de ça, OK, je veux le traduire. Parce que parmi d'autres missions que je me donne, c'est de découvrir la communauté, la littérature anglophone du côté francophone. Il y a beaucoup de perles rares du côté anglophone et comme on vit un peu séparément, on connaît très peu. Mordecai Richler, il y a des classiques, mais je veux dire les nouveaux. Puis aussi, il y a une traduction, Heather O'Neill. Il y a oui, 5 qui occupent toute la scène. Et mon Dieu, combien d'auteurs, d'autrices sont bons. La poésie anglo-québécoise est extraordinaire, tout comme la poésie canadienne. Ça serait vraiment un travail à faire de traduire la poésie anglo-québécoise. Mais Carmine, j'ai dit, je le fais. Et ça, c'était quand même en 2020. On était assez jeunes, on n'avait même pas l'argent pour ça, mais je l'ai fait. Et j'ai fait un appel au traducteur. Puis, bon, il y avait des poètes qui venaient avec leurs 10 livres publiés de poésie, puis ils pensaient que, bon, si j'écris 10 livres de poésie, c'est sûr que je vais traduire très bien ça. C'est que ce n'est pas évident. Finalement, j'ai choisi Gabriel Kunst, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est poète et qui a fait une maîtrise, un doctorat. En tout cas, il n'a jamais traduit. Mais ses connaissances, puis son insistance, puis la manière de lui donner un poème, le premier qui était le plus difficile, qui donnait même le titre du volume, et mon Dieu que j'ai aimé, tout d'un coup. Donc j'ai trouvé que c'est même mieux que l'original. Il avait tellement d'humour, tellement de finesse. Le langage colloquial de l'original, il l'avait retrouvé en français. Et ça, tu vois tout de suite le génie. Donc ça, c'est vraiment, j'aimerais lui donner à traduire chaque mois un recueil. Je dirais comme ça avec lui, j'ai pas l'argent. Mais c'est ça, tu vois tout de suite que ça marche.
Merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment intéressante, cette discussion. Moi, j'ai remarqué le sens de l'éthique qui vous anime. Du coup, je me suis demandé comment vous transmettez et vous assurez de conserver ce sens de l'éthique avec les différents collaborateurs avec lesquels vous travaillez. Parce que je pense que c'est difficile de, effectivement, s'assurer tout au long de la chaîne de garder cette éthique-là. Alors, j'aimerais vous en prendre là-dessus.
J'ai toujours choisi les collaborateurs, collaboratrices qui ont vraiment des compétences. Et à part les compétences culturelles, linguistiques, ce sont vraiment des gens que j'apprécie, qui sont déjà dans l'industrie, qui ont des doctorats, qui travaillent avec les livres. Et maintenant, je comprends combien d'enjeux ça implique l'industrie, un livre. C'est un objet tellement, waouh, tu comprends pas combien. Quels sont les enjeux de faire ce livre et combien c'est difficile et combien il faut faire attention. Donc, je suis d'une grande honnêteté, d'une grande ouverture. J'ai jamais la moindre mauvaise pensée et je pars toujours de l'idée que mes collaborateurs doivent être comme moi. Je ne donne pas de leçons, je ne donne pas des conseils. J'ai jamais eu de problème avec des gens qui... Donc, ce problème, je ne l'ai vraiment pas. Je sais que j'ai des gens bien autour de moi, je suis tellement bien entourée. Pour les essais, par exemple, j'ai deux femmes extraordinaires qui ont enseigné à l'université, la responsabilité de corriger, de répondre à des critères, de puis l'essai, comment faire les notes de page, tout l'appareil qui accompagne. Donc, je suis très bien entourée. Je me sens très en sécurité avec eux. Puis, quand tu as un problème, tu sais que dans ton équipe, il y a toujours quelqu'un qui a la réponse ou ils connaissent les gens à qui on peut adresser. Et si jamais dans le doute, ne passe jamais sans avoir la réponse parce que ça peut avoir des conséquences. Par contre, le problème qu'on a le plus souvent, ce n'est pas une question d'éthique, c'est de harcèlement dans le monde de l'édition. Ça, c'est partout, donc à l'université. Donc, harcèlement psychologique. Parce que parfois, les auteurs, les autrices ont l'impression, peuvent avoir. Il faut faire. À mon époque, c'est comme on te disait que tu étais stupide, que tu n'es pas bien, comme à tout à tour de bras, donc à chaque pas. Ah, c'est quoi ça? On n'est plus là. Donc, c'est ici qu'il faut faire attention. Donc, un auteur, autrice qui ne prend pas bien tes observations, ils peuvent t'accuser de harcèlement psychologique. Public. Ils ont Facebook, Instagram, c'est en quelques secondes de faire un mauvais commentaire, puis ça fait boule de neige. Ça veut dire, avant de vérifier, les gens prennent pour acquis que tu n'es pas un bon éditeur, que tu ne respectes pas tes autrices, tes auteurs, que tu ne fais pas attention, que tu ne ménages pas leur sensibilité, que tu ne respectes pas leur idée, que tu vas dénaturer leur texte, que tu veux juste l'argent, que je n'ai pas eu ce problème. Mais j'ai des collègues qui l'ont eu. Puis je fais très attention parce que si un texte est mauvais à tel point, je refuse de le travailler juste parce que je sais qu'à un moment donné, je peux rencontrer ce problème. Si le texte n'est pas bien fait à 90%, je sais que si je dois travailler plus, ça risque de froisser l'auteur, l'autrice. Ça mène à rien. Puis, je peux avoir des accusations que je ne fais pas bien, que je harcèle, que je demande trop, que je ne respecte pas. Donc, c'est plus ça, c'est notre problème, notre quotidien. Harcèlement psychologique, c'est le grand dada. C'est correct. Moi, je n'ai pas eu ce problème parce qu'à un moment donné, tu choisis ta maison d'édition, tu choisis ton éditeur parce que tu lui fais confiance, parce que tu as lu des livres que tu as aimés, que tu veux être publié dans ce catalogue, puis que t'aimerais ressembler à ces auteurs, autrices qui ont travaillé par cet éditeur. Mais parfois, les gens envoient sans même pas lire quelle est notre mission, sans avoir lu un livre de ce qu'on a publié. Et ça, c'est le problème. Parce que parfois, j'ai envie, mais je ne peux pas. J'ai envie de lire. Est-ce que tu as lu au moins un titre? Pourquoi tu m'envoies ça? Des livres fantastiques, des livres, c'est fait, des livres jeunesse. Je ne publie pas. Regardez le catalogue, s'il vous plaît. Ne me faites pas perdre le temps. Ils ne lisent pas, ils envoient ton copy-paste. Donc, maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je cherche. Je fais un peu de profilage, tout le monde fait, mais c'est pour la bonne cause. Mais quand il y a quelque chose que j'aime, je discute avant, en toute honnêteté. J'invite l'auteur chez nous, l'autrice, pour un café, un gin tonic, si c'est le cas. Un petit de bouffe, ça réchauffe un peu, ça nous met dans l'ambiance, puis on jase de ci, de ça, puis à un moment donné, on arrive au livre. J'ai dit, il y a beaucoup de travail à faire dans ton manuscrit. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu nous fais confiance? Est-ce que tu es capable? Tu penses que ça va aller? Bon, ils disent oui, c'est sûr. Puis après la première roue, c'est. Mais bref, tu vois tout de suite les auteurs qui sont ouverts, qui te font confiance, qui ont lu ce que tu as fait, puis ils aiment ça. Tu as le privilège parfois de rencontrer des auteurs, autrices qui sont déjà extraordinaires. Tu t'enrichis comme éditeur en travaillant avec tel auteur parce qu'ils acceptent en toute humilité, ils acceptent, mais ils essaient de comprendre. On discute, on négocie, et ça marche très bien. J'ai eu deux, trois telles situations. Et je pense qu'on a fait de très bons livres et des livres qui, bon, à mon avis, ça signifie quelque chose. Et je cherche de tel auteur. Parfois, il y a des livres moyennement bons, mais je sais que je ne pourrais pas travailler avec l'auteur en toute honnêteté. Je sais que ça ne marche pas. J'ai ce feeling de sentir l'auteur quand. Non, c'est, il y a un certain orgueil. Très bien, bonne chance. Il y a tellement de maisons. Vous avez. Il n'y a aucun regret. On se sépare à un ami. Ça ne marche pas. Tu fais le premier essai, ça ne marche pas. Il faut ne pas pousser. Ça ne marche pas. Ce que je vous propose, ce que vous me proposez en retour, ça ne marche pas. Puis je ne veux pas arriver à un conflit. Puis on ne pousse pas plus loin. C'est très délicat l'accompagnement. C'est un grand, grand défi l'accompagnement.
J'ai peut-être une question
Oui.
concernant le fait d'afficher les traducteurs sur la page couverture. J'ai remarqué que vous avez quelques livres qui en ont, il y en a qui n'en ont pas.
Ouais.
Et sous-question à ça, vous parlez de faute de la traduction et
Oui,
tout.
oui.
Est-ce que, par exemple, les éditions hashtag prennent la faute des traducteurs ou le fait d'afficher le traducteur sur la page couverture peut peut-être. Est-ce qu'on accuse à ce moment-là le traducteur à la place?
Non, non, non. Je dois m'excuser. Ça veut dire, c'est une erreur de ne pas mettre le traducteur. Une grande erreur. Il faut le faire parce que c'est une naissance qui lui appartient. Je ne l'ai pas fait parce que on n'était pas très. Il n'y avait pas une uniformité dans le milieu, s'il faut ou il ne faut pas. Parfois, le titre est déjà. Parfois, la couverture est déjà trop pleine. Oh, si on ajoute encore. En tout cas, tu trouves le nom de l'auteur ici. Pourquoi je. Mais il faut le mettre. C'est obligatoire. C'est très important. C'est comme. Le traducteur aussi, c'est un créateur. Il faut le mettre. Mais au début, comme je vous ai dit, j'étais autrice, j'avais pas beaucoup d'expérience dans l'édition. J'ai appris en cours de route. J'ai pas fait des formations. J'ai juste été bien accompagnée, dont d'être toujours bien entourée par des gens très capables. Avec les gens que j'ai travaillé avec mes éditeurs, surtout avec André Vanasse, avec Linda Litt, je suis toujours restée en contact. Ils étaient des éditeurs avec beaucoup d'expérience par rapport à moi. Puis chaque fois que j'avais un problème, c'est à eux que je demandais conseil. Puis ils étaient toujours vraiment pris beaucoup de temps pour m'aider. Et je suis très reconnaissante. Mais la question de la traduction, j'apprends. Chaque jour, chaque mois, chaque année, j'ai appris. Puis quand j'ai commencé les premières traductions, généralement, c'était moi la traductrice. J'ai dit, oh, c'est comme, waouh, ils vont penser que c'est vraiment, j'ai l'orgueil d'être partout. Et je ne l'ai pas fait. Mais il faut le faire parce que ce n'est pas juste, il s'agit de moi, c'est de la profession. Et à côté de l'auteur, si c'est quelqu'un d'autre qui parle au nom de l'auteur, il faut le mettre. Donc, n'hésitez pas, demandez ça, réclamez ça, imposez, n'acceptez pas de ne pas être sur la couverture. C'est votre droit, absolument. Parce que vous portez sur les épaules toute la charge du livre. Si c'est bon, c'est grâce à vous. Si c'est pas bon, c'est à cause de
Mais justement, est-ce que c'est entièrement la faute du traducteur?
vous.
C'est pour ça que je posais la question.
Oui et non. C'est sûr que le gros du travail, c'est lui qui le fait. Mais ensuite, il y a toute une armée qui entre après. Il y a ce qu'on appelle lecture parallèle. Normalement, tu devrais payer les yeux de la tête à quelqu'un qui lit français et en anglais, ce qu'on ne peut pas faire. Parce que c'est comme ça, coûte 6 000 $. C'est impossible. Avant de partir en révision linguistique, tu donnes quand même ce qu'on appelle édition. Ce qui est bizarre parce qu'édition, tu fais avec une œuvre originale. Mais il y a un éditeur de traduction. Il n'est pas obligé. Idéalement, il doit savoir la langue de base. Parce que chaque fois qu'il y a une phrase qui ne marche pas, donc il le lit avec l'œil pur, voir si ça coule, si c'est correct, s'il n'y a pas de faux amis. Mais il y a des phrases où ça bug, alors il doit être capable d'aller à l'original pour voir la phrase et la comprendre très bien et proposer des changements. Donc revenir vers le traducteur, vers l'éditeur, puis hein, cette phrase-là, vraiment, ce n'est pas du tout le sens et ça risque de dénaturer par après. Donc, ne laisse jamais qu'il n'est pas réglé au point A, parce que jusqu'au point B, ça peut dénaturer beaucoup de choses. Donc, ensuite, donc, cette révision, ça coûte autour de 1 000 $. Ça dépend du nombre de. Mais c'est une lecture vierge, lecture créatrice, si tu veux, sans nécessairement aller dans la révision linguistique, donc synonyme, correction des phrases, non. Tu lis une histoire pour la première fois, est-ce que tu comprends? Est-ce que ça va? Est-ce que. Idéalement, c'est l'éditeur aussi, idéalement, il doit avoir une culture, savoir de quoi ça parle, parce que parfois, il y a des termes, il y a des envois, il y a des. S'il a jamais entendu de tel ou tel sujet, choisis bien ton éditeur. Parce que si c'est un livre d'histoire, ben, choisis un peu quelqu'un qui a un rapport avec l'histoire. Si c'est un livre d'art ou. Bon, idéalement, choisis quelqu'un qui a au moins des appétences ou un intérêt pour cet univers-là. Parce que là, tu as la chance de ne pas laisser les anachronismes, les références toutes croches. Donc, ça doit être quelqu'un qui doit éviter les gaucheries. Ensuite, c'est la révision linguistique. Révision linguistique, j'impose pas au réviseur linguistique de savoir l'anglais. Idéalement, oui, ça serait bien parce que lui aussi, il trouve des mésententes. Oh, cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est à cause du français ou c'est parce que le traducteur n'a lui-même pas bien compris de quoi ça parle? Alors, lui aussi, il doit aller à l'original. J'ai la chance quand même d'avoir Marianne Ménard, elle a fait un doctorat à McGill, donc elle est révision linguistique, mais elle maîtrise très bien l'anglais. Puis souvent, elle est venue me dire, mais c'était pas vraiment ça. Je pense que ça aurait pu être, c'est pas une question de langue, mais vraiment de l'interprétation. Il faut retourner à la racine. Je peux pas changer cette phrase parce que tu dois la refaire complètement. Donc ça, c'est révision linguistique qui est beaucoup et très ardu. Ça coûte très cher. Une traduction, révision linguistique, c'est beaucoup plus cher qu'un livre original création. Parce que création, elle dit, oh, c'est moi qui veux ça, tu peux pas changer. Mais traduction, non. Tu as toujours l'original pour dire, oui, je comprends que tu fais ça. Mais l'original, il dit autre chose et tu peux pas changer. Ensuite, on le met en page et ensuite, c'est correction d'épreuve qui est autre chose. Normalement, ils chassent les fautes, les veuves et l'orpheline, les typos. Mais là-bas aussi, parce que dès qu'il y a cette page, dès que tu as une structure, dès que tu vois les titres, dès que ça apparaît encore une fois, ça ressort un peu plus les fautes. Et là, on espère qu'il n'y en a pas beaucoup, mais parfois, ça arrive que c'est tellement beaucoup de fautes que tu dois refaire la mise en page. Et ça coûte d'autres choses. Et tu dois refaire encore correction d'épreuve. C'est terrible la traduction. C'est très cher. C'est très cher. Et il faut faire attention. C'est pour ça que tu as besoin de mon traducteur. Parce que le travail doit être bien fait dès le début. Tu dois avoir la garantie que c'est quelqu'un qui va te donner quand même un produit fini de qualité. Parce que sinon, le travail que tu fais après pour corriger tout ça te coûte les yeux de la tête. Et moi, j'ai imprimé 400. Et j'ai vendu peut-être 200. Et ce n'était pas financé. Mais je suis très contente de l'avoir traduit. Il n'est pas lu, mais il existe quelque part dans la bibliothèque. Et je pense que ceux qui vont faire des études, ou c'est comme ce livre est important qu'il soit en français. La même chose pour qui est québécois, qui a été publié en anglais. En anglais, c'est Who Belongs in Québec. C'est un titre plus fort. L'autrice ne voulait pas de ce titre. L'autrice, Rachel Fletcher. Et les journalistes, ils couvraient l'Assemblée nationale au Parlement pour Globe and Mail. Elle couvrait en français, mais elle écrivait en anglais. Elle a eu la malchance d'être en poste de couvrir l'attentat de la mosquée. Et c'était très difficile pour elle de couvrir ça. Et elle a fait un livre. Elle a raconté l'attentat, mais d'une manière extrêmement journalistique, extrêmement aucun mauvais pas du côté de accusation ou nationalisme, comme un journaliste, comme un vrai journaliste, très objectif. Comment on est arrivé là? Comment un enfant de banlieue qui n'a aucune tendance, comment est arrivé à faire ça? À se diriger vers une communauté, à spotter cette communauté-là, alors qu'il voulait avant faire autre chose. Bref. Donc, un livre, je trouve que c'est une lecture obligatoire. Si tu connais pas rien sur le Québec en lisant ça, puis l'avènement des nouvelles avec Trump, comment Trump a influencé nos politiques identitaires, Québec? On est tellement influencé par ça. Monsieur Legault avec CAQ, toute la politique d'immigration, ça a changé. Et l'arrivée de Trump a complètement changé. On a l'impression que le Canada est à l'abri, que ça ne nous affecte pas. Mais tout ça est visible dans notre société, les changements que ça a générés. Et il explique très bien ça. Moi, je trouve ça que c'est une lecture essentielle. La même chose. Pas lu, pas acheté, mais je suis contente. Je suis très contente. Je trouve que c'est un geste nécessaire. Pas une vocation suicidaire de faire des choses qui ne se vendent pas, mais je pense que c'est important. Il y a quelques années, Alain Robbe-Grillet, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur français. Il est venu au Festival Métropolis Bleu. À l'époque, c'était en 2005-6, je n'avais aucune idée, aucun désir d'avoir une maison d'édition. Mais il racontait son expérience quand il a publié, vous savez, le nouveau roman en France, les années 50. Il a publié un roman qui s'appelle Les Gommes, qui ont, avec le nouveau roman, vraiment, il a changé la paradigme romanesque. Et le nouveau roman, les éditeurs ne voulaient pas des auteurs comme lui, Sarrault, tous les auteurs du nouveau roman. Et il y avait une petite maison d'édition qui s'appelle les éditions de Minuit, qui ont osé de faire ce geste suicidaire. Et Alain Robbe-Grillet disait, quand j'ai publié Les Gommes, il y a eu 300 livres qui sont vendus dans toute la francophonie, pas la France, toute la francophonie. Mais le nouveau roman est devenu le nouveau roman, puis les éditions de Minuit sont devenues les éditions de Minuit. Donc, on commence par des actions comme ça, kamikazes, mais on ne sait pas. Je pense que le travail bien fait, à un moment donné, ça donne des résultats. Il faut juste survivre aux pertes financières, puis continuer à faire. Parce que je suis contente de ce qu'on a fait. Vraiment contente. Je n'ai jamais fait un rabais. Je n'ai jamais pris un titre parce que c'est mon ami, parce que c'est célèbre, parce que ça se vend. Je n'ai jamais pris quelque chose que j'aime pas, dans lequel je crois. Et j'essaie de me maintenir, de garder cette ligne, parce que ce n'est pas facile. Parce que tout le monde publie des auteurs qui sont des journalistes, qui sont des profs, qui ont des connaissances dans le milieu, parce que c'est ça qui se vend. Mais mon Dieu, que parfois c'est pas bon. Alors, c'est difficile, mais je pense que quand tu es contente, tu as l'impression que c'est différent. Je me sens bien avec ça. C'est ça, je reviens à Alain Robbe-Grillet. Il disait à l'époque, le rôle d'un éditeur est de publier des livres pour vivre, de vendre. Mais le rôle d'un grand éditeur est de publier des livres que personne ne lit. On n'est pas là, mais ça a l'air que parfois, les bons livres, c'est comme, il n'y a pas beaucoup de monde qui les lit. Mais c'est ça le but d'une maison d'édition, vraiment.
J'ai une question qui va probablement montrer à quel point il n'y avait rien au milieu des maisons d'édition. Mais mentionnant qu'il n'y avait que environ publications par an, on a déjà mentionné le fait qu'il était beaucoup par rapport au budget.
Oui.
Et je me demandais en fait aussi par rapport aux les propositions de publication que vous avez, ces 8 publications-là, quelle part ça représente un petit peu. Si on enlève, comme vous avez mentionné aussi, tous les gens
Oui, qui n'ont pas de
qui
rapport.
voilà.
Oui.
Si on enlève tout ça, comme dans les choses que vous pourriez vraiment publier, à quel point est-ce que.
Oui, je pense que il y a 4-5 manuscrits qui arrivent par jour. Et parfois, il y a des bons, croyez-moi. Donc, ce n'est pas tous des pas de rapport. Il y en a qui sont bons, mais que tu dois refuser pour des critères. Tout d'abord, parce que tu ne peux pas tout publier. Tu dois vraiment choisir celui qui te représente le plus. Et tu prends les risques parce que, comme je vous ai dit, il y a des auteurs qui sont difficiles, mais tu vois que ça peut donner quelque chose. Si tu arrives à dépasser une certaine barrière avec cet auteur, cette autrice, tu sais que ça va te donner quelque chose de bien. Et parfois, tu travailles, puis tu arrives à un certain point où il te reste comme ça, puis il ne veut plus. Puis là, tu as perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de. Mais c'est ça. Parce que si eux ne veulent pas, moi non plus, je ne veux pas. Mais tant mieux, c'est bien quand il y a des arrivages comme ça. J'aime ça. Et puis, dès qu'un livre a un succès quelconque, alors, tout le monde se garoche, tout le monde te lance tout ce qu'il y a dans les tiroirs. Et tant mieux. Parce que peut-être, s'il y a des gens qui voient que, par exemple, ce livre a un succès, un roman ou quelque chose, ok, quelqu'un qui lit la description, ah, mais moi aussi, je fais la même chose. Peut-être que ça marchait, peut-être que ça intéressait. Alors, tu vois que dans les semaines qui suivent une sortie dans les librairies avec un titre qui a un certain succès ou des réactions ou des bonnes critiques, là, il y a un afflux de livres qui possiblement ressemble à ça. Et tant mieux. Donc, c'est bien d'avoir comme. Parce que pour avoir un bon manuscrit, tu as besoin de 500 manuscrits à lire. C'est à tel point. C'est sûr, les gens écrivent plus qu'avant avec l'ordinateur. Avant, les gens, quand j'ai commencé, j'écrivais à la machine. C'est comme j'avais mal aux doigts. Et puis, quand tu devais corriger, ben, il fallait découper, il fallait réécrire. Ici, c'est copy-paste, c'est comme tellement simple. Oui, ça a augmenté la quantité des manuscrits parce que c'est facile à produire un manuscrit. C'était pas comme à l'époque de Balzac, quand c'était à la plume. Ils écrivaient deux livres par, je ne sais pas, cinq livres dans toute leur vie. Balzac, c'est l'exception, mais Flaubert, il a écrit quoi? Trois livres ou quelque chose? Parce que c'était difficile à écrire. Et quand il fallait refaire, comme tu refaisais tout, on écrit beaucoup et on reçoit beaucoup. Il faut 1 000 manuscrits pour choisir peut-être un ou deux. Maintenant, j'ai la facilité. Je sais tout de suite que ça n'a pas de rapport. Il faut juste une page. Tu lis une page. Et surtout en poésie, je reçois beaucoup de poésie. Et mes forces, ça veut dire les forces de hashtag, c'est vraiment, on attire beaucoup de la bonne poésie, beaucoup, beaucoup plus que roman. Moi, je suis romancière et j'aimerais publier beaucoup plus de romans parce que je sais les accompagner, je sais reconnaître un bon livre, je sais faire un bon livre avec un auteur. Mais je n'en reçois pas tant que ça. En échange, des manuscrits de poésie, j'en reçois à l'appel. Et de très bons, surtout les femmes, ont une grande force et liberté. Puis, c'est comme on a perdu, ils ont perdu, les femmes avaient toujours, c'était l'écriture des femmes, on attendait des femmes qui soient féminines, qui parlent de la lune, du lac, des nénuphars. Ils ne sont plus là. Ils sont vraiment, ils s'en foutent de tout. Ils veulent, ces femmes, ils ne veulent plus être cool pour personne, ils ne veulent plus plaire à personne. Et c'est tellement bien ce qu'ils font, ce qu'on naturalise à être cruel avec les autres et avec elles-mêmes. La dérision tournée vers elles-mêmes. C'est magnifique. Tu as un livre, tu dois presque rien faire. Je ne peux pas publier autant parce que c'est cher puisque ça ne se vend pas. Mais je pourrais publier 5, 10 par année de très bons livres. Mais je ne peux pas, malheureusement. Je cherche aussi les essais. Il n'y en a pas beaucoup qui sont bons. Anaïs Gachet, c'est une Française. Une histoire très banale. Ça veut dire, c'est une fille et elle n'a même pas une carrière littéraire. Elle a fait une maîtrise en marketing en France. Puis en France, elle vendait du Victoria's Secret dans une boutique. Elle est venue ici. Elle a fait une compagnie de danse et elle travaille dans une compagnie autochtone comme public relations. Puis elle a tout simplement expliqué la traversée de l'océan. Pourquoi elle a quitté la France? Comment ça s'est passé ici? Avec un peu de critique, ça veut dire que c'est pas tout beau pour les Français, même s'ils parlent bien le français, c'est pas ça. Il y a d'autres défis pour les Français qui arrivent ici. Elle a écrit avec un tel beau. Parce que dans son pays, ses parents étaient des enfants d'immigrants, des Russes, des Italiens, qui sont arrivés en France, qui sont battus pour rester en France. Et ses parents ne disaient, mais comment ça? Nous, on s'est battus pour être des Français, pour vivre en France. Et toi, tu comprends pas tes ancêtres russes de l'armée blanche, des Italiens, des paysans italiens qui sont partis. Elle critique un peu la France. Qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi ça marche pas les dernières années? Et puis, son expérience ici, quand elle découvre d'autres défis, puis le Québec que les Français cherchent. C'est pas du tout ce qu'ils s'imaginent. Puis, travaillant avec aussi les autochtones, elle a appris à décoloniser le langage, donc des choses qui étaient complètement étrangères de ce qu'elle pensait avant. Mais j'ai adoré ce livre. Je trouvais tellement une histoire d'une vie très simple, mais fait avec beaucoup d'astuces parce que c'est très théorique aussi. Tout d'abord, elle commence avec un appareil critique pour faire la distinction entre les migrants et les expatriés. Parce que en lisant des articles, ils disent toujours les migrants de minorités visibles, ils disent nous on est des migrants alors que les Français sont des expatriés. Pourquoi cette distinction? Donc c'est ça, les migrants blancs sont des expatriés, les migrants d'autres couleurs sont des immigrants. Donc et elle a fait des recherches, des articles pour faire la différence entre bon, il y a des migrants plus migrants que les autres, donc comme ça. J'ai adoré ça. Très bien marché, mais ça marche encore, surtout en numérique. Et je pense que ce sont les Français d'ailleurs qui l'achètent en numérique. Et je le traduis en roumain. J'ai oublié de vous dire que Hashtag a fondé une collection en Roumanie. Les titres qui vont très bien ici, les romans surtout, je les publie en roumain. Et je les traduis, ça marche bien en Roumanie. Pourquoi? J'ai essayé de m'expliquer. Parce que la Roumanie est un pays francophone. La Roumanie a toujours vécu avec la fascination de la France. Parce que par rapport aux anciennes colonies, le Maghreb, l'Afrique, qui ont quand même et un autre rapport avec la France qui a été l'ancien colonisateur, il y a ces pays francophones de l'Europe. On n'a pas été une colonie physique, on a été une colonie spirituelle. On a pris le bon de la France, la culture, la tradition. Et les Roumains sont des grands nostalgiques de la France. Ils veulent tous en France. La France, c'est le modèle absolu culturel. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui... Parce que le titre en roumain, c'est du genre « Pourquoi j'ai quitté la France ?» Alors, les Roumains disent « Oh my God, pourquoi il a quitté la France ?» On va voir. Où on veut aller là-bas?
C'est assez court, hein, dans cette histoire.
Oui, mais c'est tellement plein d'informations. Ce sont des livres comme ça de 100 pages qui vaut pour une encyclopédie. C'est ce qu'on cherche, on ne trouve pas. Et j'observe, je ne vais pas être trop accusatrice, mais quand il y a une femme éditrice puis un auteur homme, parfois il y a un petit quelque chose. Je ne dirais pas comme manque de confiance, mais on dirait que les femmes éditeurs travaillent mieux avec les autrices femmes. Ça entre, on est encore dans cette sphère de manque de... Quand une femme est en position d'autorité, est-ce qu'on lui fait confiance jusqu'au bout? Est-ce qu'on est dans les bonnes mains? Ou un homme pourrait faire mieux? Je pense qu'on est encore dans cette dynamique. C'est pourquoi? Parce que comme éditeur, tu es vraiment dans une position d'autorité. Tu commandes. Et les femmes n'ont pas souvent été dans cette position. C'est très récemment. Et c'est au Québec, mais ailleurs, je regarde en Roumanie, il y a comme 1% des femmes éditeurs. Généralement, je regarde les maisons d'édition avec qui je fais des affaires pour échanger des manuscrits. C'est des hommes en commande. Peu de femmes éditrices. Parce que c'est une question d'autorité. Et les auteurs, hommes, ne reconnaissent pas, n'acceptent pas souvent de prendre des conseils d'une femme.
Moi, c'était un peu centré sur le livre. Je
Oui.
voulais juste savoir comment a été le processus de transition pour le livre, s'il y a eu des défis ou si vous avez pensé à abandonner ou
Je le traduirai encore une fois parce que quand je l'ai lu en anglais, c'était pas mal. Il a une histoire aussi. Moi, je l'avais découvert comme il avait écrit un livre biographique. Il est d'origine yéménite. Il est né au Yémen. En fait, ses parents, Yémen a été colonie britannique. Son père, il était un homme très riche, real estate. Et il travaillait beaucoup avec les Britanniques. C'était comme quand les Britanniques sont partis, sa famille a dû partir en Égypte. Il a grandi en fait en Égypte dans les années 50, 60, 70. Et Kamal, très vite, a découvert qu'il était homosexuel, ce qui était assez difficile. Il était dans une famille assez croyante, des musulmans. C'est une famille assez libérale, mais à une certaine époque, ils sont revenus au Yémen et sa famille, ses femmes se sont endoctrinées très vite, en fait obligées du contexte aussi. Ils ont mis le voile. Kamal est parti en Angleterre pour faire ses études. Il a fait un doctorat, puis il a déménagé au Canada. Et maintenant, il enseigne, il a été journaliste. Et maintenant, il enseigne le journalisme à British Columbia. Donc, il a ce parcours que j'aime beaucoup. Et il a ses plumes journalistiques d'information. Et je l'ai lu parce que en 2013, parmi les livres, mon livre, The Darling of Kandahar, ça faisait partie des 10 meilleurs livres au Québec, mais son livre à lui, le premier, c'est ça faisait partie des 10 livres meilleurs en Ontario, quelque chose comme ça. Et alors, j'étais curieuse, je l'ai lu, je lisais comme les autres titres, voir quels sont les titres comme moi. Et il avait écrit un livre justement sur ses biographies, son enfance, puis sa relation avec sa homosexualité. C'était difficile pour sa famille d'accepter. Puis même en Angleterre, il a été toujours déchiré. Puis il est venu ici, puis la guerre au Yémen qui est terrible. Et j'ai adoré son style. Sa vie, c'était palpitant. Tu lisais sa biographie, c'était un roman d'aventure. C'est tellement mouvementé, tellement de changements. Le mélange entre l'objectif, subjectif, les drames, il disait comme Baldwin, comme être noir, homosexuel. J'ai dit, j'ai pris le gros. Lui aussi, je suis arabe, je suis musulman et je suis homosexuel. c'est pas de tout repos, donc c'est difficile. Et j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, quand j'ai lu ce livre, c'était différent. Lui, comme personne, ça n'existait pas. C'était un livre pour lequel il a eu une bourse de recherche. Il a pris une année sabbatique. Il a voyagé à la recherche de ces communautés brunes qui sont la nouvelle forme d'esclavage contemporain. Les Népalais qui travaillent à Dubaï, sur les chantiers de construction. Les femmes de ménage, philippines qui. Les Mexicains sans papier aux États-Unis. En France, les communautés ghettoïsées des Maghrébins après la guerre de. En Angleterre, les communautés produites après la décolonisation, les Pakistanais, les Bangladesh, les Indiens, donc toutes ces communautés. Et il dit, c'est tellement parce que le monde est polarisé entre noirs et blancs. Et il dit, mais les noirs sont plus heureux. Nous, parce qu'ils ont ce récit officiel de l'esclavage. Nous, on n'a rien. On a juste associé avec l'islam et la peau brune est associée dernièrement avec la peau brune et le terrorisme. Donc, c'est plein d'informations. Il fait le tour de l'histoire, des récits identitaires. Il est allé sur les chantiers à Dubaï au moment où on construisait le stade olympique pour les Jeux olympiques, en France à l'époque de Sarkozy et tout ça. C'est tellement vaste et recueillir des témoignages de plusieurs générations sur ces thèmes identitaires, c'est très complexe. Et quand je l'ai lu, bon, j'ai apprécié ça. Mais quand tu fais phrase par phrase, tu approfondis vraiment le sens, tu comprends vraiment la profondeur dans ton livre, la vérité qu'il dit, puis l'information accumulée que tu as besoin d'une bibliothèque pour apprendre tout ça, alors que tout est là. Et quand tu traduis en tes livres, vraiment, c'est comme un cours de, je sais pas, t'as tout. Parce que quand j'ai traduisé chaque chapitre, c'est comme une nouvelle découverte. C'était comme une leçon. Au-delà des mots, je bénéficiais du sens, d'informations, de ces livres. La même chose pour ça. Pour moi, c'est comme je suis devenue plus, je sais pas, connaisseur, plus. Je sais beaucoup plus sur ce monde juste en traduisant trois livres. Ça, c'est écrit par des femmes. Je l'ai choisi, en fait, pas moi. On était pendant la pandémie. Amy Runa, qui était la cofondatrice, elle faisait son postdoctorat à Glasgow, en Écosse. Et la pandémie l'a bloquée là-bas. Alors, j'ai dit, ben, au moins, essaie de, je sais pas, trouver un titre. Elle a trouvé ce titre. J'ai dit, tout d'abord, l'Écosse a peut-être le même problème identitaire que le Québec, parce que l'Écosse veut se séparer de l'Angleterre, donc on se ressemble un petit peu. Et de quelle manière cette société, quand même assez isolée, conservatrice, l'Écosse n'a pas été beaucoup en contact avec les communautés migrantes. Et ça, c'est un témoignage des femmes, pas nécessairement migrantes, juste des femmes qui parlent de leur marginalité. Il y a des femmes, OK, migrantes, mais il y a des femmes lesbiennes qui viennent de la Bulgarie, immigrées en Écosse. Imagine ce trajet entre tout un bouleversement. Il y a des femmes grosses qui sont toujours comme, OK, tu vas dans un cinéma, ta chaise n'est pas bonne. En avion, ta chaise n'est pas bonne. Alors, OK, tu as un problème avec ton corps, maman. Tout le monde te regarde du biais parce que tu occupes trop de place. Pourquoi tu manges autant? Mais ce n'est pas un choix parfois de manger autant. La vie nous impose ce rythme sucré parce qu'on veut être performante. Parce qu'on nous dit de bouger, mais mon Dieu, bouger où, bouger quand? La grossophobie, on déteste les gros, mais sans voir que c'est un problème qui n'est pas, ça devient incontrôlable. Et plus tu ajoutes des calories, plus tu peux plus t'en débarrasser. La même chose pour certains métiers, par exemple les témoignages d'une femme qui est DJ, qui est encore un métier d'homme. Le mépris des femmes qui travaillent dans ce domaine, c'est épouvantable, ça veut dire. Un homme DJ ne va jamais, ça va être toujours ton prof, il va s'ériger toujours en quelqu'un qui te donne le conseil, quelle musique, comment faire. Puis les femmes qui travaillent dans ce type de milieu discriminatoire, elles veulent être cool. Ils embrassent des choses qu'elles n'aiment même pas, mais juste pour être acceptées par le milieu, tes collègues hommes. Et ça, c'est terrible. Ça vient de cet essai que cette femme DJ a maintenant dit. Maintenant, je ne veux plus être cool pour personne. Ce n'est pas ça le but. Je veux être cool, faire ce que j'aime. Puis si les autres m'aiment, comme C'est pas apprendre des leçons à toujours de quelqu'un. Donc, en lisant ça, je traduirai ça à tout moment. Je suis certaine qu'en traduisant, si je le traduirais encore une fois, je suis sûre que je pourrais trouver des choses qui m'ont échappé.
Ça vient d'où le manuscrit?
Ça vient du fait qu'on n'avait pas de titre. C'était difficile. Au début, on cherchait quelque chose du latin ou quelque chose de profond. Et puis, on faisait hashtag quelque chose. Donc, on faisait des recherches en mettant hashtag avant, hashtag avec. On a tellement cherché, puis on a dit, ben, si on reste juste hashtag. Et c'est comme ça qu'on restait avec hashtag, parce que les autres recherches ne donnaient rien. Mais à l'époque, on est quand même, oui, on connaissait la fonction de hashtag, mais on aimait cette, parce que dès que tu fais un hashtag et tu ajoutes quelque chose, tu as 1000 possibilités de trouver quelque chose qui a rapport avec ce que tu cherches. Et on trouvait ce signe très rassembleur, rassembleur des choses qui apparemment n'ont pas de rapport ensemble, mais qui, quand tu les mets ensemble, même avec leurs différences, ça fait une unité, ça crée une nouvelle unité de sens. Donc, nos livres, si tu les regardes, peut-être on dirait, ben ok, est-ce que c'est minorité migrante, est-ce que c'est poésie queer, est-ce que c'est des essais, est-ce que c'est littérature autochtone, mais tout se ressemble par, je ne sais pas, par la nature du sujet, par l'intérêt, notre vision sur le monde qui est plus, je ne sais pas, inclusive, ouverte. C'est comme ça on est resté avec hashtag.
Une dernière question sur le financement.
Oui.
D'où vient le financement et
Oui.
peut-être particulièrement pour les traductions, est-ce que vous arrivez à payer les
Oui.
traducteurs?
Alors, le Canada est vraiment un pays privilégié concernant l'édition parce que il y a de l'appui, pas beaucoup, mais normalement, une maison d'édition devrait vivre des ventes, devrait. Mais en même temps, si on cherche à vendre à tout prix, on tombe vraiment dans le bas du registre. On fait des livres de cuisine, romans policiers, romans jeunesse, bandes dessinées, c'est ça qui vend. Les bons livres n'ont jamais vendu. Pensez à Joyce, pensez à Virginia Woolf. C'est comme dans l'ordre des centaines, un bon livre. J'ai lu même en France, disait un bon livre, ça se vend à 100 exemplaires, pas plus. Donc, trouver la balance. OK, on publie un titre qui se vend bien, ce qui nous donne de la nourriture pour faire vraiment d'autres titres qui comptent à long terme, qui restent. Donc, par exemple, la poésie, ça ne se vend pas. Mais parfois, les essais, ça se vend. Par exemple, Blair Stone Child, c'était la meilleure vente et ça vend encore. Et le livre, c'est 30 quelques dollars, c'est cher. Mais c'est encore très bien vendu. Donc, normalement, les essais, ça se vend mieux que les romans et que la poésie. La poésie, ça ne se vend pas du tout. Mais si tu as un essai qui ça se vend, ça te permet quand même de faire d'autres choses. Donc, personne ne lit, à part les livres commerciaux qui se vendent. Nous, on est appuyé, l'industrie de qualité, on est appuyé par la SODEC et par le Conseil des arts du Canada. Mais pas beaucoup. C'est peut-être 30% des dépenses. Nous, on a 8 titres. Et je le dis publiquement, c'est les dépenses d'une année financière, ça dépasse 100 000 en dépenses pour sortir les 8 titres, qui est beaucoup. Un titre comme ça coûte 10 000 à produire. Un titre comme ça, 6 000-7 000, sans compter la traduction. Juste la révision, c'est autour de 4 000. L'imprimeur, c'est autour de 3 500 exemplaires, pas plus. Couverture, mise en page, 1 000 quelques. Donc, si un livre coûte 8 000, moi, je devrais vendre autour de 4 000 pour couvrir les dépenses, ce qui n'est jamais le cas. Donc, c'est très coûteux. Et si tu n'as pas l'appui de l'État, tu pourrais jamais faire ça. Jamais. Alors, on a l'avantage de vivre quand même dans un pays qui comprend ça. On peut tout dire de notre régime, on peut être critique, mais les conseils, la SODEC, c'est quelque chose, crédit d'impôt, aide à la publication et la promotion. Ça fait quelque chose. Ça couvre 30, 40% de dépenses. Il y a un autre 20, 30% des ventes qui entrent. Il y a un petit peu crédit d'impôt, mais pas beaucoup. Puis c'est pas mal tout. Le reste, ça vient du fait que je travaille à temps plein sans me payer jamais, jamais. J'ai jamais pris un dollar pour tout ce que j'ai. Et tous les livres que j'ai traduits, je ne me suis pas payée. Même quand j'ai eu du financement, j'ai laissé cet argent dans la maison. J'ai imprimé. Donc, j'ai traduit toujours parce que j'aime ça. J'ai un emploi à temps plein et parfois, j'appuie la maison avec mon salaire. En plus de ne pas payer le loyer, parce que quand je vais en déplacement, c'est moi qui couvre tout. Mais encore une fois, je sais dans quoi j'ai embarqué, j'ai assumé ça et je suis prête à l'assumer pour longtemps parce que c'est une bonne cause. Et au lieu d'aller en vacances à Cuba 2 fois par année, je fais 4 livres et c'est mieux pour moi. Donc, c'est ça. Ça peut changer. On est dans les 5 premières années. C'est difficile, c'est sûr. Tu dois faire ton marché, ton public, conquérir les librairies, courir les salons du livre. C'est difficile de faire parler de toi. Tu as besoin d'un grand titre pour que ce soit vraiment un bon coup et que tout le monde parle. Mais avec des titres comme ça, c'est bouche à oreille. C'est la qualité, ça part de l'élite vers le bas. On veut arriver au grand public, c'est encore difficile de le joindre, mais on sait que dans le milieu, on a une bonne réputation et ce qui compte pour nous. Donc, côté financièrement, ce qu'on veut, c'est au moins de ne pas perdre de l'argent, de réussir de couvrir les dépenses, faire la bonne promotion, faire les salons, dans les règles de l'art, ça veut dire on ne saute absolument aucune étape. Nos auteurs sont dans les salons, séances de dédicace, publicité dans les journaux, achètent des espaces publicitaires qui coûtent beaucoup. Un petit espace, ça coûte 1 000 dollars, non? Et on ne sait pas qu'est-ce que ça donne. Tu ne peux pas comptabiliser. Parfois, ça donne, mais généralement, on ne sait pas. Une personne qui s'occupe à temps plein avec les médias, publiés sur médias, et tous les gens qui travaillent sont payés et mieux que dans d'autres industries. Ça veut dire que je paye certains projets, certains à la pige, je les paye même mieux. Pourquoi? Parce que dans l'industrie de l'édition, c'est le monde le mieux payé de l'industrie culturelle. Un éditeur ou travaille avec 20 dollars, 22 dollars, alors qu'un enseignant, on a quoi? 100 dollars, 50 dollars de l'heure. Donc, c'est la pire industrie, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Ça produit pas beaucoup d'argent. Alors, des éditeurs qui ont des post-doctorats, ils ont un salaire de 50 000 par année. 50, 60, avec un peu de chance. Quand tu vas embaucher quelqu'un à la pige, tu lui donnes 20 dollars ou 22, mais c'est pas beaucoup. Alors, moi, je donne 25 parce que je me dis, c'est pas un travail qui fait à temps plein pour toujours. C'est des petits projets. C'est mieux de le payer bien. Puis, quand tu as besoin, tu sais que il est là pour toi, ce qui est important. Tu fidélises les gens. Mais comme jamais j'ai travaillé avec bénévolat, ils ont été payés. C'est juste moi qui ne me paye pas. Mais je suis très contente avec ça parce que la richesse de ce que j'ai en échange, puis c'est à l'âge où l'argent vraiment, ça compte plus. Vraiment plus. On le dit comme ça, mais vraiment plus. Tout ce que j'ai, c'est... J'ai fait mes calculs, puis je suis très confortable avec ça. C'est une industrie qui, financièrement, c'est très perdant. Et à un moment donné, tu es obligé de faire des rabais. Ça dépend. OK, tu fais des rabais de la qualité, peut-être. Mais je veux dire, les livres policiers, livres jeunesse, pourquoi pas? C'est de la bonne littérature. On a besoin de ça aussi. Moi, je devrais en faire. Mais je ne connais pas. Ça veut dire livre jeunesse, j'ai aucune idée. Je ne sais pas le bon livre, même si j'ai des petits-enfants, j'ai 4 petits-enfants. Les livres que je lis, mon Dieu, qui sont mauvais. Je m'excuse là, mais encore. J'ai de la difficulté à recommander un livre à mes petits-enfants. tellement bébé là, je veux dire, ça doit être plus intelligent, plus. Donc, c'est ça, j'ai peur, mais peut-être je me dis, peut-être c'est moi qui n'ai pas le flair, peut-être qu'ils sont bons, mais je suis trop exigeante. Si tu vends un livre 10 000 dollars, mais voilà, tu fais deux petits livres de poésie avec ça. Je devrais faire ça. Mais pour ça, il faut trouver un bon éditeur qui sait c'est quoi un bon livre jeunesse. Moi, je ne sais pas. Même pour la poésie, je ne sais pas vraiment. J'aime la poésie, mais je préfère embaucher quelqu'un, un poète ou quelqu'un qui est reconnu, qui a son flair en poésie. Mais pour faire de tes livres, tu dois avoir quelqu'un qui s'y connaît.
Merci beaucoup.
Ben, merci.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.